La situation en Afghanistan, on en parle aussi aujourd'hui beaucoup dans la presse internationale. Bonjour Véronique Rigolet.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
À la une, les puissances du G20, donc au chevet d'un pays menacé de famine.
Oui, réunion extraordinaire du G20 en visioconférence aujourd'hui à Rome. Première fois que les nations les plus riches du monde se réunissent pour discuter de l'Afghanistan, avec également l'Union européenne, le FMI et la Banque mondiale, se félicite le Corriere della Sera. Alors que dit-il? Eh bien, la situation humanitaire se dégrade dangereusement depuis le retour des talibans à Kaboul en août dernier. Une situation humanitaire intenable qui menace de tourner à la catastrophe, souligne de son côté Le Temps, le quotidien suisse qui rappelle que selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, 95% de la population afghane est aujourd'hui sous-alimentée et 1 million d'enfants de moins de 5 ans mourront de faim d'ici la fin de l'année si rien n'est fait. Pas question pour autant d'engager des relations avec le régime de Kaboul. Il s'agira de soutenir la population sans favoriser les talibans, explique La Repubblica, qui met en avant que le patron en exercice du G20, le premier ministre italien Mario Draghi, mise tout sur la coopération avec les Nations Unies pour gérer tout à la fois, je cite, les urgences sur le terrain dans les mois à venir, mais également contrôler la gestion des fonds qui seront alloués aujourd'hui afin d'éviter, je cite, qu'elles ne tombent aux mains des talibans.
En Grande-Bretagne, la publication d'un rapport parlementaire accablant qui dénonce les défaillances du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire.
C'est l'un des pires échecs de santé publique de l'histoire du Royaume-Uni, rapporte la quasi-totalité de la presse britannique qui reprend ainsi la principale conclusion de ce rapport parlementaire de 150 pages en rappelant que le Covid a déjà fait 138 000 morts dans le pays. Un rapport dévastateur qui met à nu les gaffe du gouvernement, explique le Daily Mail, qui rapporte qu'au début du confinement, 25 000 personnes âgées hospitalisées ont été ainsi renvoyées dans leur maison de retraite sans avoir été testées pour le Covid. Des morts inutiles, estime le quotidien. Accablé également, le Financial Times et le Guardian pointent de leur côté la réponse, je cite, bâclée et fataliste du gouvernement britannique face à la pandémie qui a conduit, je cite, à une stratégie de recherche d'immunité collective alors que des milliers de personnes seraient encore en vie si le confinement avait été décidé plus rapidement. Seul point positif, toujours selon ce rapport, le succès quand même de la campagne de vaccination, rapporte la presse britannique, qui fait que aujourd'hui 78% de la population âgée de plus de 12 ans est complètement vaccinée.
En Asie, l'université de Hong Kong ordonne le retrait d'une sculpture rendant hommage aux victimes de la répression de la place Tiananmen.
Et pour les militants pro-démocratie, c'est le dernier exemple en date de la façon dont les Hongkongais perdent continuellement leur liberté sous le régime chinois, note le South China Morning Post, qui rapporte que l'université leur a laissé à ses militants jusqu'à demain 17h pour retirer l'immense sculpture, l'œuvre qui s'appelle le pilier de la honte, fait 8 mètres de haut, pas moins de 2 tonnes. Il avait été érigé il y a une vingtaine d'années sur le campus, explique encore le quotidien de Hong Kong. Et elle était surtout devenue un lieu de célébration pour les militants pro-démocratie qui y organisent chaque année la fameuse veillée à la bougie en hommage aux victimes de la place Tiananmen, tuées lors de la répression du 4 juin 89 à Pékin. Un symbole à éradiquer pour la Chine, explique de son côté le Guardian, pour qui la sculpture est sans doute la dernière cible de la vaste loi sur la sécurité nationale que la Chine a imposée à Hong Kong l'an passé afin de réprimer toute forme de dissidence.
Et pour terminer, Véronique, les disparitions fréquentes du leader nord-coréen Kim Jong-un ont enfin, semble-t-il, trouvé une explication.
Et oui, fini les spéculations anxieuses des observateurs étrangers à chaque fois que le dirigeant nord-coréen disparaît soudainement et mystérieusement, nous explique le Times, qui révèle qu'en fait, Kim Jong-un passe son temps à concevoir, je cite, des bouteilles de vin, des cargos, des uniformes scolaires ou bien encore des stations touristique, une passion pour le design et la micro-gestion qui expliquerait ainsi toutes ces longues absences loin de la scène publique, toujours selon le quotidien britannique, qui en veut pour preuve que Kim disparaît, nous dit-il, précisément avant chaque nouvelle exposition de dessins industriels d'artistes nord-coréens.
Merci beaucoup Véronique, c'était la revue de presse internationale de Véronique Rigolet.